Donc, je vais vous présenter ma thèse de doctorat. Enfin, un certain nombre d'éléments, les grandes lignes de ma thèse de doctorat, qui était assez longue d'ailleurs, donc, qui traite de la question du commerce dans les petites villes. Alors, dans un premier temps, je vais très rapidement vous présenter les raisons qui ont conduit à cette thèse de doctorat. Ensuite, je présenterai la démarche de recherche, le constat de façon très classique, hein, le constat, la problématique, la méthodologie. Et puis ensuite, ce sera la partie la plus longue, je vous présenterai les résultats dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans ma thèse de doctorat. Alors, tout d'abord, le contexte d'élaboration de cette thèse. Il y a trois raisons qui m'ont conduit à me lancer dans ce travail. C'est tout d'abord, qui ont conduit plus précisément même, au choix de ce sujet. C'est tout d'abord son ancrage dans l'un des axes de recherche donc de l'ancien Céramac, aujourd'hui donc l'UMR Métaphore, dont vous avez vu le logo sur la première diapositive. Et cet axe de recherche, pendant longtemps, a traité des villes petites et moyennes situées hors des espaces métropolitains. Ensuite, une deuxième raison, c'est que c'était un sujet relativement peu exploré. Alors, évidemment, il y avait déjà eu des travaux sur les petites villes, d'abord dans le cadre des réseaux urbains, ensuite sur les petites villes proprement dites, et puis sur le commerce qui ont pu traiter des petites villes. Mais une thèse qui soit exclusivement centrée, qui soit exclusivement centrée sur ce travail n'avait encore pour l'instant pas été traitée. Enfin, il y a les enjeux contemporains, les enjeux en matière d'aménagement, en matière d'urbanisme, de développement local, concernant les petites villes, et qui d'ailleurs reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène, si je puis dire, avec le lancement des projets, des actions cœur de ville pour redynamiser le commerce des villes petites et moyennes. Donc à partir de là donc débouche un projet de thèse relativement ambitieux, hein, puisque la thèse fait 735 pages. Donc qui porte à la fois sur le commerce, les pratiques d'achat et les stratégies d'aménagement commercial dans les petites villes. Tout d'abord, donc, je vais vous présenter la démarche de recherche en partant d'un double constat. Tout d'abord, un constat de type socio-économique, à savoir que la fonction commerciale connaît depuis une soixantaine d'années maintenant une double révolution. Deux révolutions, donc la seconde et la troisième révolution commerciale. La première révolution commerciale, c'était celle des grands magasins au XIXe siècle. Donc, une seconde révolution commerciale qui est marquée par le développement des grandes surfaces, mais aussi par le développement du commerce associé, du commerce intégré, c'est-à-dire les franchises, les chaînes, etc. Mais aussi qui est marquée par, sur le plan de la consommation, par l'essor de la consommation de masse et qui commence à évoluer avec une consommation qui tend, en tout cas dans les désirs des consommateurs, à être de plus en plus individualisée, ce qui donne de temps en temps une tentative d'adaptation de la grande distribution standardisée une volonté de consommation plus individualisée de la part de la clientèle. Et puis, cette seconde révolution commerciale s'est traduite sur le plan spatial, sur le plan géographique, par l'essor des grandes zones d'activité commerciale périphériques et une recomposition nécessaire des centres-villes qui ont vu émerger des pôles périphériques concurrents. Enfin, donc la troisième révolution commerciale, qui est marquée, elle, depuis la fin des années 90, par l'essor d'Internet, du commerce électronique, et puis plus récemment par le phénomène des drives, des pick and drive, comme vous voulez, et qui semble faire basculer le commerce dans une nouvelle ère, mais ça, on n'est qu'au début du phénomène. Et puis, à côté de cela, à côté des évolutions du commerce et de la consommation, on voit dans ce constat un constat plus géographique, cette fois-ci, concernant les petites villes proprement dites, à savoir, à l'échelle intra-urbaine, le phénomène de la périurbanisation et de la réorganisation des centres-villes, donc périurbanisation autour des petites villes, et puis, à l'échelle interurbaine, cette fois-ci, les effets de la métropolisation, c'est-à-dire du renforcement fonctionnel et démographique des grandes métropoles, effets donc sur les petites villes, ainsi que l'étalement de ces grandes métropoles, et en parallèle, la recomposition des espaces ruraux, certains ayant tendance à plutôt décliner, d'autres à se maintenir, certains même à, bien se porter, en particulier dans les régions très touristiques. On le verra sur mon terrain d'étude, par exemple dans les Alpes du Nord. Donc, une double évolution géographique auquel les petites villes sont soumises et qui vont avoir des effets sur l'évolution de leur équipement commercial, de leur dynamique commerciale. Alors, afin d'analyser et de comprendre le fonctionnement et l'évolution du commerce des petites villes, j'ai positionné ma thèse dans un cadre systémique, schématisé donc de cette façon, afin donc de comprendre la double évolution à la fois du commerce et de la consommation des petites villes. C'est la relation horizontale que vous voyez. Alors le schéma est peut-être un petit peu complexe. Et puis, les effets deux éléments, l'espace géographique, à la fois intra-urbain, la morphologie urbaine, interurbain, le réseau urbain dans lequel s'insèrent les petites villes, et d'autre part, le jeu des acteurs institutionnels, des acteurs institutionnels, en particulier politiques, les communes, les communautés d'agglomération, etc., mais aussi les chambres de commerce, sur l'évolution du commerce dans les petites villes. À partir de là, donc, j'ai posé la problématique, une double problématique, en fait, de celle de l'adaptation des petites villes aux évolutions du système commercial et l'adaptation du commerce des petites villes aux évolutions du système urbain dans lequel elles s'insèrent. Autrement dit, formulé sous forme interrogative, comment les petites villes se sont-elles adaptées aux évolutions des deuxième et troisième révolutions commerciales, sachant que la troisième révolution commerciale, j'ai encore assez peu d'éléments dessus, et comment le commerce des petites villes s'est-il adapté aux évolutions démographiques, morphologiques et fonctionnelles, et plus largement géographiques, que connaissent encore aujourd'hui les petites villes. Alors, sur le plan méthodologique, j'ai adopté une méthodologie finalement assez classique, mais que j'ai essayé de rendre la plus complète possible et qui comprend en fait trois étapes qui vont correspondre en fait aux trois grandes parties de ma thèse de doctorat. À savoir donc dans un premier temps la réalisation d'un état des lieux du système commercial des petites villes et de ses dynamiques sur la base à la fois de données statistiques, donc je vous indiquais un certain nombre de sources que j'ai utilisées, le fichier Sirène de l'INSEE. Alors Unistatis, ça n'existe plus, c'est Lacoste aujourd'hui. Une petite précision aussi donc sur l'Office régional du commerce d'Auvergne. Vous verrez que dans les documents que je vais vous présenter tout à l'heure, je vais alterner entre l'Auvergne et le centre-est de la France, qui est mon terrain d'étude, je vais vous présenter tout à l'heure, juste après, pour des raisons en fait de disponibilité de sources statistiques. Je n'ai eu des informations sur les surfaces de vente que à l'échelle de l'Auvergne. Ailleurs, je n'ai pas pu obtenir d'informations de ce genre. Et puis, donc, des relevés, des enquêtes de terrain. J'ai réalisé quatre grandes enquêtes de terrain. L'enquête commerçant, qui est la plus importante, auprès de, j'ai plus en tête, ça doit être plus de 250 commerçants sur six petites villes. Je vais vous présenter le terrain d'étude après. Une enquête client auprès de 110 clients rencontrés dans la rue et interrogés dans la rue. auprès des régisseurs de marché des petites villes pour comprendre. Donc là, c'était une enquête épistolaire pour comprendre le fonctionnement des marchés du commerce ambulant dans les petites villes, et puis une enquête de type piatier pour étudier les zones de chalandise, donc auprès des maires et des secrétaires de mairie. La deuxième étape de ma méthode, ça a été ensuite donc de mettre en relation le système commercial avec les autres éléments du système de la petite ville que je vous ai présenté juste avant, dans le précédent schéma, donc avec évidemment les mêmes sources de données. Et puis enfin, troisième étape, qui correspond à la dernière partie de ma thèse de doctorat, l'analyse du jeu d'acteurs en matière de stratégie d'aménagement et de développement commercial dans les petites villes. Donc sur ce point-là, j'ai utilisé donc j'ai étudié les décisions rendues par les anciennes commissions départementales d'équipement commercial, actuelles commissions départementales d'aménagement commercial. C'est-à-dire, ce sont les commissions, très rapidement, hein, ce sont les commissions qui donnent l'autorisation pour les implantations ou les agrandissements de grandes surfaces. Donc à l'époque, c'était 300 mètres carrés de surface de vente. Maintenant, c'est passé à 1000 mètres carrés depuis 2009. Et la mise en place des CDAC. Et j'ai aussi étudié donc les documents d'aménagement, et j'ai effectué un certain nombre d'entretiens avec des élus, avec des responsables de chambres de commerce, avec aussi beaucoup de responsables d'associations de commerçants, pour obtenir leurs opinions et avoir une idée des stratégies qui sont mises en place. Alors, pour appliquer cette méthode, j'ai défini un terrain d'étude donc, qui est très vaste. Les 169 petites villes comprises entre 2000 et 30 000 habitants dans le cadre de leurs aires urbaines, réparties sur l'ensemble du centre-est de la France, c'est-à-dire l'actuelle grande région Auvergne-Rhône-Alpes, plus les départements de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et du Jura, dont l'essentiel est en fait intégré dans les réseaux urbains de Clermont-Ferrand et de Lyon. C'est pour ça. Donc l'unité, en fait, c'était les réseaux urbains commandés par Clermont-Ferrand et Lyon. Dans cet échantillon, alors évidemment, sur ces 169 petites villes, là, j'ai fait un travail statistique. Mais mes enquêtes de terrain, je les ai réalisées dans 6 petites villes test que j'ai définies en fonction de leur profil morphologique, démographique et fonctionnel. Issoire, Brioude, donc en Auvergne, puis Dôme, Haute-Loire, Paray-le-Monial, dans la Saône-et-Loire, Tarare, dans le Rhône, le doublé de villes Tournon-sur-Rhône, Tain-l'Hermitage, ici entre l'Ardèche et la Drôme, et enfin Modane, ici en Savoie. Alors, à présent, donc, je vais vous présenter les résultats afin de répondre donc à la problématique posée au début de la thèse. Et tout d'abord, nous allons voir, et donc nous allons surtout donc nous interroger sur les manifestations des deux dernières révolutions commerciales, donc la seconde révolution commerciale et puis la troisième qui débute, leurs manifestations dans les petites villes et sur la manière dont le commerce traditionnel, sédentaire, non sédentaire, a réagi face à ces évolutions. Alors dans un premier temps, donc, nous allons voir comment le commerce en général, le commerce des petites villes prises en général, et les pratiques d'achat ont évolué en nous demandant si ces petites villes se sont bien intégrées dans le mouvement qu'on observe à l'échelle nationale, dans d'autres villes, dans des villes de rang supérieur, ou si elles présentent un certain nombre d'originalités. Ensuite, je ferai des développements sur la seconde et la troisième révolution commerciale et sur la réaction du commerce, du petit commerce. Alors, le premier constat, si l'on analyse les trois principaux indicateurs statistiques concernant le commerce, à savoir l'évolution du nombre de commerces, l'évolution des emplois, l'évolution des surfaces, je précise que je n'ai pu obtenir aucune donnée sur les chiffres d'affaires des commerces, donc c'est pour ça que je m'appuie là-dessus. Le premier constat, c'est celle, en fait, ça vous paraît peut-être paradoxal, mais celle d'un renforcement commercial des petites villes. Alors ça peut paraître paradoxal, voire même provocateur, quand on voit l'évolution, en particulier des centres-villes. Et pourtant, si l'on regarde la courbe d'évolution des surfaces de vente et dans une moindre mesure celle des salariés du commerce, on se rend compte que l'offre commerciale au cours des 30 dernières années, depuis le milieu des années 80. Alors, les données s'arrêtent en 2008 parce que, bon, je ne les ai pas réactualisées, donc les données sont un petit peu anciennes. Mais ça va pas, ça change pas grand-chose. Donc, si l'on étudie l'évolution des salariés des surfaces de vente, il apparaît clairement que l'offre commerciale s'est renforcée, surtout si l'on regarde les densités commerciales, c'est-à-dire ces indicateurs rapportés au nombre d'habitants dans les rues urbaines, ces densités augmentent, alors le nombre d'établissements non, mais la surface de vente pour 1000 habitants est passée de, en moyenne, 1485 m² à 2288 m² donc entre 84 et 2008. De même, le nombre d'emplois dans le commerce pour 1000 habitants est passé de 41 à 45 emplois pour 1000 habitants. On a ici clairement une offre qui a augmenté pour, en rapport à la masse de population. Alors vous voyez bien derrière cette évolution, évidemment, le développement de la grande distribution qui explique très largement ce phénomène. Cela dit, le renforcement de l'offre n'est pas la seule conclusion que l'on peut tirer de l'analyse des indicateurs commerciaux. En effet, si l'on compare l'évolution des différentes branches commerciales, on s'aperçoit que si les branches de la distribution commerciale, alimentation, tabac, presse, hygiène, santé, équipement de la personne, équipement du foyer, commerce automobile, voient leurs effectifs salariés augmenter ou même diminuer dans le domaine de la presse et du tabac, on voit surtout, bon, si on met à part aussi les magasins à rayons multiples, c'est-à-dire les grandes surfaces, on voit surtout que la croissance du salariat dans le commerce est avant tout le fait des établissements de services à caractère commercial que j'ai inclus dans le commerce, puisqu'il s'insère dans un paysage commercial, à savoir l'hôtellerie, café, restauration, notamment la restauration se développe énormément, les services financiers immobiliers, en particulier banque assurance, les services à la personne et les services aux entreprises qui connaissent un accroissement très important. Alors, dans ces activités, je ne prends que celles qui sont incluses dans un paysage commercial. Par exemple, services à la personne, ça va être les blanchisseries, etc. Ou les coiffeurs. Idem bon, pour les services aux entreprises. Je ne prends pas, par exemple, les professions libérales ne font pas partie de cet échantillon. À partir de là, donc, ces évolutions révèlent ici une insertion des petites villes dans le processus en cours à l'échelle nationale. On a donc bien des petites villes, qui sont bien ancrées dans les évolutions nationales. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est de savoir si ces petites villes présentent une originalité par rapport aux autres agglomérations. Alors, si l'on revient ici sur l'Auvergne, puisque c'est le seul territoire sur lequel j'ai pu avoir des données sur les surfaces de vente, qu'est-ce qu'on observe ? On observe, pour les petites villes, une baisse du nombre d'établissements dans les mêmes proportions que pour les autres agglomérations. On voit la différence entre les villes et le monde rural, les communes rurales ayant vu leur nombre d'établissements fortement chuter. C'est d'ailleurs la même chose pour les emplois dans le commerce et pour les surfaces de vente. Par contre, si l'on observe les surfaces de vente, on se rend compte que là, par contre, les petites villes connaissent une croissance beaucoup plus forte. Et dans une moindre mesure aussi pour l'emploi commercial par rapport notamment aux villes moyennes. La raison ici, c'est celle d'un phénomène, c'est un phénomène en fait de rattrapage des petites villes par rapport aux agglomérations plus grandes, les petites villes ayant accueilli plutôt les innovations commerciales plus tardivement que les agglomérations plus grandes. On va voir ça tout à l'heure de façon un peu plus précise. Donc on a ici un premier élément d'originalité de la petite ville, à savoir justement ce processus de rattrapage par rapport aux grandes agglomérations. Maintenant, sur le plan de la clientèle, j'ai parlé ici de l'offre commerciale, maintenant on va voir la demande. Quelles sont les caractéristiques de la clientèle des petites villes ? Alors, là, premier point, pas très original, si on regarde les pyramides des âges, on a une clientèle qui est en moyenne un peu plus âgée dans les petites villes que dans les agglomérations plus importantes. Bon, l'explication, il suffit de, pour la comprendre, il suffit de regarder la classe d'âge autour de 20 ans. Et on voit ici, évidemment, le phénomène des étudiants qui vont dans les grandes agglomérations, dans les villes moyennes aussi, UT, section BTS, et donc qui désertent les petites villes et encore plus les communes rurales, ce qui a un impact sur l'offre commerciale. Deuxième élément ici concernant les caractéristiques, élément peut-être même encore plus important concernant les caractéristiques de la clientèle des petites villes, celle du revenu, le pouvoir d'achat, en tout cas, disons plutôt le potentiel d'achat, parce que le pouvoir d'achat, c'est encore autre chose, c'est une autre définition. Le potentiel d'achat ici dans les petites villes, si on regarde le revenu moyen, il y a beaucoup de chiffres, mais regardez simplement la toute dernière colonne ici. On remarque ici que le revenu moyen des ménages dans les petites villes est bien inférieur à celui des agglomérations plus importantes. Là aussi, on va voir que ça va avoir un impact sur les caractéristiques de l'offre commerciale. Et enfin, dernier point concernant les caractéristiques de la clientèle, je vais assez rapidement, c'est le taux de motorisation. Taux de motorisation qui est très élevé, relativement élevé, mais qui est en fait très élevé par rapport aux agglomérations plus importantes, ce qui implique que la clientèle des petites villes, même si elle présente un potentiel d'achat moins important, reste une clientèle potentiellement très mobile. Et ça a un impact sur la question de l'évasion commerciale vers d'autres agglomérations mieux dotées, mieux équipées sur le plan commercial. Concernant donc maintenant, plus précisément, la deuxième et la troisième révolution commerciale, comment est-ce que le phénomène s'est développé ? Le premier constat, lorsqu'on observe cette frise chronologique, c'est que les petites villes ont bien connu, comme les villes moyennes, comme les grandes agglomérations, donc là, les grandes agglomérations, c'est Lyon, Saint-Étienne, Grenoble et Clermont-Ferrand sur mon terrain d'études. Donc les villes moyennes, ça va être des villes comme Roanne, Valence, Le Puy, Chambéry, etc. Donc, panel assez large. Et puis donc ensuite mes petites villes entre 2000 et 30 000 habitants. Donc, on observe ici donc que d'une part, les petites villes ont bien connu toutes les étapes de la seconde révolution commerciale, la troisième aussi, mais qu'elles les ont connues avec un décalage temporel par rapport aux grandes agglomérations. La révolution commerciale commence dans les grandes villes dès la fin des années 50. On voit apparaître les premiers supermarchés. Tandis que les premiers supermarchés dans les petites villes vont commencer à apparaître fin des années 60, début des années 70. Donc, les différentes étapes. Première étape, donc, ce sera donc ce que j'appelle la première phase, début de la grande distribution, c'est la diffusion des supermarchés. Première forme de grande distribution. Deuxième étape, ce que j'appelle le gigantisme et le commerce et l'extension au commerce non alimentaire, c'est-à-dire les hypermarchés et les grandes surfaces spécialisées, magasins de bricolage, de jouets, de vêtements, etc. Grandes surfaces. Troisième phase, c'est l'adaptation ici de la grande distribution aux nouvelles attentes de la clientèle, aux nouvelles caractéristiques de la clientèle. Donc, le hard discount pour une clientèle touchée par la crise, disons, qui s'adresse au départ à une clientèle moins fortunée, qui en fait touche tous les clients maintenant. Et puis aussi de nouvelles formes plus récentes, comme par exemple les grandes surfaces de produits frais qui essaient de s'ancrer sur le créneau des produits de qualité. À partir de la fin des années, on voit émerger la troisième révolution commerciale avec le développement du commerce électronique. Alors, la seconde révolution commerciale se poursuit encore. On voit encore, même si c'est un peu moins important, on voit encore se développer supermarché, hypermarché, surtout dans les centres-villes des grandes agglomérations maintenant. Donc, la troisième révolution commerciale, alors je l'ai faite débuter partout puisque Internet démarre partout. En théorie, dans le détail, il faudrait Il y aura des petites nuances à apporter. Et puis, donc, avec donc, deux étapes, la première, le commerce électronique, et puis la deuxième avec le développement des drives en périphérie des agglomérations, c'est-à-dire la grande distribution traditionnelle qui s'empare du commerce électronique. Ici, on voit donc que les petites villes se sont bien intégrées, là encore, dans le processus, mais avec un décalage, ce qui en fait leur originalité, avec un décalage par rapport aux autres niveaux urbains. Alors maintenant, si on essaie de voir concrètement quelle forme a pris cette seconde révolution commerciale, le premier constat qu'on peut faire, c'est celle d'une adaptation de la grande distribution à la taille des villes. La grande distribution s'est donc bien implantée dans les petites villes, mais elle a été obligée de s'adapter à sa taille par ce que l'on appelle les petits formats. Petit format de grande surface. Ça peut paraître paradoxal, petit format grande surface, mais c'est bien le cas quand on regarde, quand on compare plutôt les surfaces moyennes des grandes surfaces, ici donc dans le commerce spécialisé, dans les petites villes et à l'échelle de la France, on se rend compte que systématiquement les surfaces de vente sont en moyenne plus petites dans les petites villes qu'à l'échelle nationale. On a donc ici une adaptation de la grande distribution aux caractéristiques de la petite ville. Ensuite, deuxième type d'adaptation de la grande distribution aux petites villes, c'est celle des stratégies des groupes de grande distribution. Et là, quand on fait par exemple, quand on compare la hiérarchie des groupes de grande distribution, on se rend compte qu'un certain nombre d'entre eux ont eu tendance à se spécialiser dans les petites villes, en particulier le groupe Les Mousquetaires, c'est-à-dire Intermarché. Intermarché s'est très largement spécialisé dans, pas uniquement, mais dans le supermarché adapté à la petite ville. Alors, le groupe Carrefour arrive en deuxième position parce que Carrefour avait racheté aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails des fusions des grandes surfaces, mais le groupe Carrefour avait notamment racheté d'anciennes enseignes, stock, d'anciens magasins, stock, champions, qui étaient spécialisés, qui s'étaient très largement diffusés dans les petites villes et dans les villes moyennes. Notons quand même que petite particularité aussi, vous voyez ici que le groupe Leclerc n'arrive qu'en 8e position pour le nombre de commerces dans les petites villes du centre-est de la France. C'est en partie dû au fait que le groupe Leclerc s'est très largement spécialisé dans les hypermarchés, mais aussi parce que le groupe Leclerc disons qu'il existe des spécificités régionales. Par exemple, si vous allez en Bretagne, des Leclerc, vous allez en trouver jusque dans les plus petits bourgs-centres, y compris dans les petites villes, ce qui n'est pas forcément le cas ailleurs. Alors, donc là encore, on a un phénomène d'adaptation de la grande distribution aux caractéristiques des petites villes. Alors, concernant maintenant, oui, c'était le troisième point, concernant la grande distribution. Alors là, je ne vais pas vous présenter de... Concernant, pardon, le commerce électronique. Je ne vais pas vous présenter de documents dessus. Disons que, parce qu'à l'époque de la réalisation de ma thèse, il y avait très peu de données sur le sujet. J'ai réussi à en obtenir quelques-unes. Et qui ne distinguait pas dans mes sources de données, qui étaient celles de la Fédération des entreprises de vente à distance, il n'y avait pas de singularisation de la petite ville comme je l'ai fait au début de cette présentation. Disons simplement que, à l'époque, donc au milieu des années 2000, je n'ai pas pu réactualiser les données, y compris à l'époque de ma thèse. Donc au milieu des années 2000, en 2004 plus précisément, les territoires ruraux ainsi que les communes de moins de 20 000 habitants occupaient un poids moins important que les autres niveaux urbains dans le total des cyberacheteurs, des utilisateurs du commerce électronique. Par contre, phénomène un peu paradoxal à l'époque, les petites villes, en tout cas les communes de moins de 20 000 habitants et les communes rurales, présentaient à l'époque un poids plus important que le reste de la hiérarchie urbaine dans la vente par correspondance. Ce qui fait que, alors, ce poids moins important dans le commerce électronique s'explique vraisemblablement à l'époque par, d'une part, un équipement, peut-être un équipement informatique était moins important dans les ménages résidant en milieu rural ou dans les petites villes, mais aussi, je pense, par une couverture en haut débit qui n'était encore pas très bonne dans un certain nombre de territoires ruraux ou même encore dans certaines petites villes. Depuis, il y a sûrement dû avoir des évolutions. Ce serait très intéressant de pouvoir obtenir des informations, mais là, lorsque j'en discute avec d'autres spécialistes de géographie du commerce sur le commerce, c'est encore assez difficile d'obtenir des informations, d'obtenir des données brutes sur ce sujet. Cela dit, les petites villes, comme les espaces ruraux, présentent manifestement un potentiel de développement très important pour le commerce électronique, puisque la vente à distance traditionnelle par catalogue, par exemple, était déjà très développée sur ces territoires. Au total, les petites villes s'avèrent donc bien intégrées dans les cycles des dernières révolutions commerciales, la deuxième et la troisième. Par contre, elles présentent un certain nombre de spécificités qui sont liées à leur taille et qui ont contraint notamment les firmes de grande distribution à s'adapter à leurs caractéristiques. Alors maintenant, on va voir comment le commerce traditionnel, le petit commerce sédentaire et non sédentaire, a réagi face à ces évolutions. Alors, dans un premier temps, on peut voir donc plusieurs. Donc, cette réaction s'est faite selon plusieurs aspects. Tout d'abord, concernant les formes d'organisation commerciale, on observe encore et toujours la prédominance du petit commerce indépendant, qui est très clair. Alors, elle est beaucoup plus nette, effectivement, avec les points de vente, que si on prend les salariés ou les surfaces de vente. Là, on a vraiment des camemberts qui sont particulièrement explicites. Mais même si on prend d'autres indicateurs, le petit commerce reste avant tout indépendant, non affilié à des groupes de franchises ou à des succursales. Cette caractéristique, donc, c'est toutefois la part des indépendants a toutefois reculé progressivement au fil des décennies depuis 1984, depuis les années 80, montrant quand même une percée du commerce intégré ou du commerce associé. Donc franchise, chaîne, groupement d'achat, succursale, etc., dans les petites villes comme dans les grandes comme dans les agglomérations de niveau supérieur. Toutefois, la part du commerce indépendant dans les petites villes est plus importante que dans les villes moyennes ou dans les grandes agglomérations, tout simplement parce que, en particulier les franchiseurs, imposent une aire de chalandise minimale pour pouvoir implanter, pour pouvoir accorder leur franchise à un indépendant qui souhaite l'obtenir. Ce qui fait que ce qui fait que les franchises sont encore relativement peu développées dans les petites villes. Ça se développe progressivement, mais encore relativement peu. Et une moindre pénétration du commerce associé intégré dans les petites villes que dans les plus grandes. Maintenant, si on regarde, c'est pour la suite. Si l'on regarde maintenant l'étude du standing et du modernisme des petites villes, là, je n'ai pas obtenu de grande originalité de la part des petites villes. Tout au plus, peut-on signaler un standing des magasins moins élevé que dans les grandes agglomérations, en lien avec une masse de clientèle beaucoup plus réduite et un niveau de revenu plus modeste, ce que j'ai montré tout à l'heure avec les tableaux statistiques. Quant aux méthodes de vente des commerçants, elles sont restées finalement, et de fidélisation de la clientèle, elles sont restées tout à fait classiques avec donc la carte de fidélité qui constitue l'élément de fidélisation de la clientèle toujours dominant. Notons toutefois, plus récemment, donc ça je l'ai vu après ma thèse, le développement de formes de coopération de plus en plus poussées, souvent sous l'égide des municipalités et des associations de commerçants autour du développement d'offices de commerce et du managériat de centre-ville qui était au départ, qui était au départ une spécificité des grandes agglomérations, puis des villes moyennes et qui commence à se développer aussi dans le cadre des petites villes. Ici, on est dans le cadre des stratégies en particulier de redynamisation des centres-villes. On a donc ici une application sur le plan des stratégies de relance du commerce, des solutions qui avaient été jusqu'à présent adoptées dans les villes moyennes et dans les grandes agglomérations. Maintenant, si on se penche sur le cas du commerce ambulant, puisque là, j'ai traité uniquement du commerce sédentaire, concernant les marchés. Le premier constat, c'est une augmentation du nombre de marchés depuis les années 80, donc à partir de la source qu'est le guide Alexandre, qui recense l'ensemble des marchés de France. Une augmentation, donc, mais en même temps, une baisse de la taille de ces marchés. C'est-à-dire qu'en fait, on a deux phénomènes. C'est-à-dire qu'on a d'une part le développement de marchés, en particulier de marchés thématiques, qui va expliquer l'augmentation du nombre de marchés forains. Donc, marché thématique vers des produits bio, vers les petits producteurs, vers les produits du terroir, etc. De plus en plus dans une logique de circuit court. En réponse donc à une demande de la clientèle de plus en plus forte sur ces produits, touristique, clientèle touristique, mais pas uniquement. Et en même temps, comme vous pouvez le voir, et en même temps, donc, on observe un écart en fait de plus en plus fort, c'est là, ici sur la deuxième ligne du tableau, un écart de plus en plus fort entre la taille des marchés des petites villes. C'est-à-dire que les marchés les plus gros ont tendance à se maintenir, mais les marchés les plus en difficulté sont les marchés les plus petits, qui sont manifestement de moins en moins fréquentés, même s'ils continuent à exister. Alors cette évolution des marchés, toutefois, ne doit pas masquer les difficultés que connaissent les commerçants non sédentaires. Ça, j'ai obtenu donc ici, ce sont donc les données que j'ai obtenues, que j'ai présentées sur le graphique tout en bas. Données obtenues auprès des régisseurs de marché dans le cadre de mon enquête de terrain, où on voit que le chiffre d'affaires, d'après eux, le chiffre d'affaires des commerçants ambulants majoritairement tend à diminuer dans un certain nombre de cas est stable, et sur un seul marché seulement, il a tendance à augmenter. Donc on voit ici une situation un petit peu paradoxale avec des marchés forains qui sont relativement prisés, surtout dans un certain nombre de villes très touristiques. Je pense par exemple une ville comme Nyons, par exemple, dans la Drôme, ou Lévent en Ardèche, ou qui connaissent un tourisme rural important et qui ont un tourisme d'espace important et qui présentent des marchés qui sont très très importants, en particulier l'été, où la taille peut être multipliée très facilement par 10, voire par plus de 10, quand on étudie l'évolution du nombre de commerçants forains présents sur les marchés. Donc au total, l'adaptation des petites villes aux dynamiques commerciales nationales est bien réelle, en dépit d'un certain nombre d'originalités que je viens de voir. Et cette adaptation leur a permis de conserver leur fonction traditionnelle de desserte commerciale. Je vous renvoie vers les graphiques qui montraient l'évolution des surfaces de vente, du nombre d'établissements et du nombre de salariés dans les petites villes, dans les différents niveaux de ville et dans le milieu rural. On voit qu'ici que les communes rurales ont vu leur équipement commercial s'effondrer complètement, ce qui fait que l'offre commerciale aujourd'hui, dans bon nombre d'espaces ruraux, surtout ceux de faible densité, comme dans le Massif central, se concentre dans les petites villes, dans les villes moyennes. On a donc ici un phénomène de renforcement de l'équipement commercial des petites villes par déclin du commerce rural, en fait, du commerce environnant. Quant à la taille de la petite ville, elle constitue une contrainte à laquelle la grande distribution a été obligée de s'adapter. Et lorsqu'elle met du temps à s'y adapter, comme par exemple avec les franchises, au bout du compte, on voit que elle finit par se plier à la contrainte de la taille et par exemple avec les franchises, à baisser progressivement le seuil de la zone de chalandise pour pouvoir s'implanter dans les villes, comme l'ont fait les grandes surfaces avec la mise en place des petits formats de magasins. Alors maintenant, après avoir donc replacé le système commercial de la petite ville dans les grandes dynamiques du commerce national, on va analyser maintenant les relations entre le commerce et le système urbain local dans lequel il s'insère. L'objectif étant ici de répondre à la deuxième partie de la problématique, à savoir comment le commerce des petites villes a-t-il réagi aux évolutions ici du système urbain. Alors, je vais présenter les résultats en adoptant un plan par échelle. D'abord, à l'échelle intra-urbaine, comment le commerce s'insère-t-il dans la morphologie urbaine des petites villes. Ensuite, à l'échelle de la zone de chalandise, comment s'organise la zone de chalandise des petites villes. On a déjà des éléments ici avec le déclin des espaces ruraux. Et puis enfin, à l'échelle régionale, comment se positionnent les petites villes sur le plan commercial dans le réseau urbain régional du centre-est de la France. Alors tout d'abord, à l'échelle intra-urbaine, le commerce des petites villes, là encore, répond bien aux évolutions de la morphologie urbaine et de sa clientèle par des adaptations similaires à celles qu'on peut observer dans les grandes agglomérations. Donc là, on va le voir à travers tout simplement des photos, des photographies. Tout d'abord, les petites villes ont vu se développer, comme les plus grandes, avec un décalage temporel, mais comme les plus grandes, les mêmes zones d'activité commerciale adaptées à l'automobile. C'est la photo située sur la gauche. Celle de la zone d'aménagement concerté ou zone d'activité commerciale, on peut transformer le mot, l'acronyme ZAC. La ZAC des listes à Issoire, avec, comme vous pouvez le voir, l'alignement des boîtes à chaussures et agrémenté de panneaux publicitaires bariolés, comme on peut le voir partout en France. Avec donc ici une uniformisation du paysage d'entrée de ville, dans les petites villes comme dans les grandes agglomérations. Un certain nombre de nodules commerciaux, sur le plan des nodules de proximité, un certain nombre d'entre eux ont pu disparaître. Là, c'est la photo. Alors, les deux photos situées à droite se ressemblent, mais elles ne représentent pas la même chose. Celle qui est située en haut à droite, les commerces fermés rue Jules Ferry à Modane, elle illustre ici le déclin, la quasi-disparition d'un pôle commercial de proximité dans la ville de Modane, alors qui était à l'origine, la ville de Modane qui est située ici. Donc vous voyez ici, je ne sais pas si on voit bien, c'est peut-être un petit peu flou, aujourd'hui le centre-ville historique de Modane, il est situé ici, c'est le petit point jaune, qui n'est aujourd'hui plus qu'un petit pôle commercial de proximité. Le vrai pôle commercial principal est situé ici. C'est le pôle de la gare. À l'origine, le pôle de Modaneville, le pôle du centre-ville, du centre historique, était aussi important que celui de la gare. Et cette photo ici illustre le déclin complet de ce pôle commercial qui, dans les années 60, devait abriter une trentaine de commerces, au moins une trentaine de commerces, et qui aujourd'hui n'en abrite plus que 5, dont plus aucun ici dans cette rue, avec ici un paysage de désolation commerciale totale, où on voit un alignement sur toute la rue, là on n'en voit qu'une portion et que d'un côté, mais des deux côtés sur toute la rue, on n'a que des commerces fermés. Donc déclin ici qui est dû à l'évolution de la population de la ville qui a perdu la moitié de ses habitants en l'espace d'une trentaine d'années et qui a vu aussi une certaine forme de paupérisation dans le quartier en question. D'autres villes, certaines villes aussi ont vu émerger des pôles commerciaux spécialisés. Alors, je vais revenir ici. Alors, ils ne sont peut-être pas très 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 visibles sur ces cartes. On voit par exemple ici des pôles commerciaux de gare situés par exemple ici à Tain-l'Hermitage. Vous avez un petit pôle commercial de gare situé à l'entrée de la gare avec des commerces qui sont spécialisés. Par exemple des taxis, par exemple des hôtels-restaurants, etc., qui se sont implantés ici en relation avec la gare. Ou alors, pôles commerciaux spécialisés ici à Modane. Alors, c'est particulier puisqu'il s'agit de la station de sport d'hiver de Valfréjus sur la commune de Modane, donc qui a vu s'implanter, se développer autour des immeubles, donc les commerces dédiés au tourisme. Autre évolution à l'échelle intra-urbaine, l'affinage commercial des centres-villes avec donc un déclin d'un certain nombre de commerces, mais aussi parfois la disparition de commerces dans des rues complètes. Et ici, c'est la photo, la dernière photo, la rue du Pont à Issoire. Donc c'était une rue qui se place, c'était à l'origine une rue très commerçante qui se place dans le cœur commerçant de la ville d'Issoire. Vous voyez ici donc les implantations commerciales sur la ville d'Issoire. Et là, vous avez donc le cœur, donc le boulevard extérieur, et le cœur ici avec la place de la République, où sont situés, qui constituent donc le cœur historique d'Issoire. Et vous aviez donc ici cette rue du Pont qui reliait la place de la République au boulevard périphérique, enfin au boulevard, et qui a vu tous ces commerces ici disparaître, tout simplement parce que c'était, si je puis dire, c'était le point faible du centre commerçant d'Issoire. C'était une rue qui était assez sinueuse, pas bien adaptée à la circulation automobile, et c'est dans cette rue que tous les commerces ici, ont décliné. Donc là, donc à travers ces petits cas de figure sur Issoire, sur Modane, vous avez ici un certain nombre d'illustrations de l'évolution qu'ont pu connaître un certain nombre de centres-villes dans les petites villes. Dans les agglomérations plus importantes, villes moyennes ou grandes agglomérations, on a pu voir aussi le même phénomène de déclin ou de recomposition commerciale des centres-villes commerçants. Alors, à côté de ces évolutions, les petites villes présentent là encore quelques spécificités par rapport donc ces évolutions communes aux villes moyennes, aux différents niveaux de ville. Les petites villes présentent là encore quelques spécificités par rapport aux agglomérations plus grandes. Une hiérarchie d'abord des nodules commerciaux qui comprend bien évidemment moins de niveaux que dans les grandes agglomérations ou dans les villes moyennes. C'est-à-dire qu'on a généralement un grand centre-ville, une grande zone d'activité périphérique, éventuellement une petite zone d'activité, et puis c'est à peu près tout. Il n'y a pas de gros pôle de quartier. Une petite exception ici, c'est le cas de Tournon-sur-Rhône, mais il s'agit d'un doublé de ville avec Tournon-sur-Rhône et Tain-l'Hermitage, où on a en fait deux centres-villes. C'était pour ça d'ailleurs que j'avais pris cette petite ville test. Deuxième spécificité, une moindre spécialisation des rues commerçantes dans les petites villes. Alors là, je ne sais pas si on voit bien. Lorsque j'ai essayé de définir la spécialisation commerciale des rues, j'ai eu dans les petites villes une certaine difficulté parce qu'on voyait souvent des commerces différents assez mélangés. Alors on voit, on a quelques. Donc j'ai essayé de définir donc, par exemple des rues avec une prédominance de commerce anomaux, indifférencié, commerce d'équipement de la personne, commerce d'équipement du foyer, commerce d'équipement récréatif. Très souvent, on a du mal à définir des rues spécialisées. Chose qu'on arrive beaucoup mieux à faire dans les grandes agglomérations, où on va voir, par exemple, dans certaines rues, une concentration de magasins de vêtements, une concentration de magasins d'équipements du foyer. Dans les petites villes, c'est beaucoup plus difficile. On y arrive parfois, par exemple, dans la plus grosse de mes petites villes, ici à Issoire, avec dans le cœur ici, dans le cœur du centre ancien, une prédominance d'équipements de la personne. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez difficile de distinguer des rues spécifiques. Enfin, de la même façon, en périphérie, absence de zones commerciales, des zones commerciales périphériques spécialisées. On n'a pas, par exemple, de route du meuble à l'entrée d'une ville. On va avoir tous les commerces, toutes les grandes surfaces périphériques, quelle que soit leur... les produits vendus vont se retrouver regroupés dans la même zone d'activité. Donc là encore, en dépit d'une intégration des petites villes aux évolutions communes aux autres grandes agglomérations, on voit là encore des spécificités liées à leur taille et qui les distinguent des villes moyennes ou surtout des agglomérations plus grandes. Alors maintenant, si on se place à l'échelle des aires de chalandise, maintenant, donc là, aires de chalandise donc, que j'ai délimité d'après mon enquête auprès des commerçants, je leur ai demandé quelles étaient leurs zones de chalandise, et par superposition, on arrive de façon assez nette d'ailleurs à définir l'aire d'influence commerciale de la petite ville. Alors, à cette échelle-là, donc la synthèse des aires de chalandise m'a permis de voir, d'une part, le maintien de la capacité de polarisation des petites villes, renforcée même, j'ai déjà dit tout à l'heure, par le déclin commercial des campagnes alentours. Déclin, que n'a pas, d'ailleurs, permis d'enrayer la périurbanisation. C'est-à-dire que la périurbanisation autour des petites villes a permis de maintenir un certain nombre de pôles commerciaux périphériques, situés dans les communes, englobées désormais dans l'aire urbaine de la petite ville, mais n'a pas véritablement permis une relance du commerce dans ces zones-là. Éventuellement, parfois, l'implantation d'un supermarché, mais dans un bourg-centre, mais c'est relativement rare. Donc ici, dans ces aires de chalandise, la petite ville reste à la tête d'un petit réseau de bourgs-centres et de villages, dont l'ampleur varie en fonction de sa taille, évidemment. La centralité commerciale de la petite ville est toutefois perturbée par un certain nombre de paramètres, comme par exemple la situation géographique de la ville. On a ici, si on prend par exemple le cas de Tarare, on a ici une aire de chalandise, qui est très réduite si on la compare par exemple à la ville de Modane, alors que Modane est bien plus petite. Tarare, c'est dans l'aire urbaine de Tarare, on doit être à entre 15 et 17 000 habitants. Dans l'aire urbaine, l'aire urbaine, c'est un grand mot pour Modane, on est à 3 000, 4 000 habitants à peu près. Et vous voyez que Modane a une aire de chalandise bien plus vaste, tout simplement parce que ici, Tarare est très très proche de Lyon. Donc une difficulté à étendre son aire de chalandise, alors que Modane est complètement, pas isolé, mais bien, beaucoup plus isolé au fin fond de la Haute-Maurienne. Et donc arrive à polariser ici toute la vallée de la Haute-Maurienne. Ensuite, autre élément de perturbation, qui va expliquer les aires de chalandise, donc la nature des fonctions urbaines inductrices de clientèle, mais ça je vais en parler un peu après. Alors, ces facteurs jouent donc non seulement sur l'organisation interne des aires de chalandise, mais aussi sur l'évasion commerciale, qui définit les relations entre les petites villes et les autres niveaux urbains. Donc là encore, en effet, donc la situation géographique de la petite ville détermine très largement les flux d'évasion commerciale vers d'autres villes mieux équipées, mais aussi parfois l'attraction, j'y reviendrai donc, l'attraction aussi d'une partie de la clientèle des petites villes, d'une partie de la clientèle de villes plus importantes par les petites villes. C'est pas représenté sur ces cartes. Donc, clientèle de villes moyennes ou de grandes villes qui viennent dans les petites villes pour rechercher une offre commerciale moins standardisée que ce que l'on observe dans les grandes ou les moyennes villes. C'est ce que j'ai pu notamment observer dans mes entretiens à Issoir ou à Brioude, où on voit une partie de la clientèle de Clermont-Ferrand qui va sur Issoir, sur Brioude, pour rechercher, notamment dans l'équipement de la personne, commerce de vêtements par exemple, une offre qu'elle ne trouve pas sur Clermont-Ferrand, où là, l'offre est beaucoup plus standardisée autour de franchises et de chaînes. Alors, si l'on revient maintenant ici, donc là, très rapidement sur l'évasion commerciale, on se rend compte ici du rôle de la situation géographique de la ville avec, par exemple, une ville comme Paray-le-Monial qui est relativement éloignée des gros centres urbains et dont la clientèle, finalement, s'évade vers plusieurs villes moyennes et ensuite grandes villes relativement proches, puisqu'ici, Paray-le-Monial est à peu près à égale distance de Roanne, Mâcon et Tarare. A l'inverse, la clientèle d'Issoir se dirige presque exclusivement sur Clermont-Ferrand, éventuellement sur Vichy. Vichy, grande station thermale avec un suréquipement commercial. Voilà. On va pas détailler, je ne vais pas détailler, faire l'analyse de tous ces schémas, mais on retrouve ici, effectivement ici le rôle de la situation géographique de la petite ville par rapport aux agglomérations qui jouent dans l'évasion, dans les flux commerciaux. Alors, à l'échelle régionale, maintenant, on va voir ici une petite... On observe ici un phénomène un peu paradoxal quand on analyse l'indice d'attractivité dont j'ai indiqué la formule, l'indice d'attractivité commerciale des petites villes, de tous les niveaux urbains. Là, vous avez tous les niveaux urbains, petites villes, grandes villes, villes moyennes. Et on se rend compte que les petites villes présentent un indice d'attractivité presque systématiquement plus élevé que les grandes villes ou les villes moyennes. On a des villes qui, en apparence, seraient plus attractives. Ce phénomène s'explique ici par un suréquipement du nombre de points de vente, un suréquipement commercial des petites villes. Là, j'ai fait ce calcul avec le nombre de commerces, mais on obtient exactement le même résultat en faisant le calcul avec le nombre de salariés du commerce. Donc, si on rapporte l'équipement commercial à la masse de population, on se rend compte, donc, effectivement, un suréquipement des petites villes sur le plan commercial, qui peut s'expliquer par une rentabilité moins importante des commerces dans les petites villes et une acceptation plus facile de chiffres d'affaires moins élevés dans les petites villes que dans les grandes agglomérations. C'est ce que Bernard Barbier, dans sa thèse qui remonte à 1968, avait déjà observé sur les petites villes, sur le réseau urbain des Alpes du Sud. Et, 40 ans, presque 50 ans après, j'observe exactement la même chose sur le centre-est de la France, à savoir ce suréquipement commercial. Alors, à l'époque, Barbier avait pu obtenir des éléments sur les chiffres d'affaires, ce qui lui avait permis de confirmer son hypothèse. Moi, je ne les ai pas, mais a priori, on observe ici le même phénomène qui reste quand même à confirmer par une analyse des chiffres d'affaires des commerces des différentes agglomérations. Alors, sur le plan sur le plan régional, en analysant donc maintenant de façon plus approfondie à l'échelle de mon réseau urbain régional, donc en analysant les relations entre le commerce et les fonctions urbaines inductrices de la clientèle, je suis arrivé à la conclusion que celles-ci engendraient donc les fonctions inductrices, industrie, fonction publique, tourisme, mais aussi la fonction résidentielle, elles engendraient de nettes distinctions dans la nature du commerce des petites villes et dans le profil commercial de ces villes. L'industrie souvent, pas toujours, mais souvent déclinante dans un certain nombre de villes, et en général peu inductrice de commerce, et favorise l'émergence d'un appareil commercial élémentaire et souvent très banal. Les services publics, eux, assurent traditionnellement une clientèle stable aux petites villes, et donc un commerce qui, a priori, doit bien se porter, mais depuis déjà plus d'une dizaine d'années, les multiples réorganisations dans la fonction publique, réorganisation de cartes judiciaires, réorganisation de cartes sanitaires et sociales, etc., rendent justement cette, et surtout dans le domaine militaire, dans les petites villes qui avaient des garnisons, rendent cette clientèle de fonctionnaires de plus en plus menacée. Enfin, le tourisme, lui, a tendance au contraire, à suréquiper les petites villes sur le plan commercial, puisque le commerce doit ici répondre à un afflux temporaire de clientèle durant la saison touristique. Alors, à partir de là, en réalisant une classification ascendante hiérarchique sur la base de 5 critères, le nombre de commerces, le nombre de commerces par habitant, pour 1000 habitants, l'évolution du commerce sur 10 ans, la part du commerce banal et la part du commerce d'hôtellerie, café, restauration, qui est spécifique au tourisme, j'ai pu réaliser une typologie des petites villes en fonction de leur profil commercial. Et ce profil commercial, en fait, tend à se calquer très souvent sur les profils fonctionnels des petites villes. Comme j'ai parlé, profil touristique, profil industriel, fonction publique, etc. Alors, dans ma typologie, là, vous voyez qu'il y a 7 classes. On peut les regrouper en 3 grandes classes. Donc, tout d'abord, les pôles principaux d'encadrement commercial, qui sont ici représentés en rouge. Ces pôles d'encadrement principaux donc présentent un équipement un peu supérieur à celui des autres petites villes, tant sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif, et généralement une dynamique positive. Vous remarquerez que ce sont généralement les petites villes les plus élevées, les plus importantes en termes de population. Vous avez par exemple ici Issoir, Cosne-sur-Loire, Autun, Montbrison, etc. Souvent d'ailleurs aussi des villes qui présentent une fonction administrative. On a par exemple ici les sous-préfectures du Puy-de-Dôme, Issoire, Ambert, Thiers qui sont dans cette catégorie. Brioude ici, sous-préfecture de la Loire ou encore ici Saint-Flour, Privas, préfecture de l'Ardèche, etc. On a donc ici, on voit donc bien ici le rôle que peut jouer la fonction publique dans le maintien des équipements commerciaux. C'est même en particulier, oui. Alors, après, on a une deuxième catégorie de petites villes que j'ai appelée les pôles secondaires, alors qui regroupent en fait plusieurs sous-catégories. Donc les pôles secondaires eux-mêmes donc divisés en pôles secondaires diversifiés. Donc les pôles secondaires diversifiés représentés ici en orange pour ceux qui sont en expansion, ou en bleu ciel pour ceux qui sont stables en fonction de la dynamique commerciale. Alors ceux qui sont en expansion, ils sont assez peu nombreux. On a ici par exemple le cas de Monistrol-sur-Loire, qui est un cas, qui est une petite ville qui est tout à fait particulière, qui est une des rares petites villes à connaître une explosion de sa population, qui a connu une explosion de sa population au cours des dernières années, à la fois en raison d'une dynamique industrielle très forte autour de la plasturgie et de la périurbanisation en provenance de Saint-Étienne, qui est situé à côté. On a ici donc ces pôles secondaires présents, sont un peu moins bien équipés que les pôles principaux, mais conservent un réel potentiel d'encadrement de la... Un réel potentiel d'encadrement de leur environnement spatial. Les pôles secondaires en déclin. Alors après, on a donc les pôles secondaires, ce que j'appelle les pôles secondaires élémentaires, stables ou en déclin. Ce sont ici les petites villes donc en bleu foncé ou en violet, qui sont qui déclinent. On a ici des cas, par exemple, comme les cas des petites villes très anciennes, anciennement industrialisées, comme Saint-Éloi-les-Mines, comme La Machine, etc., ou comme Decize, qui ont connu un très fort déclin, un certain déclin démographique lié à un déclin économique important. Et puis enfin, dernier point, donc, les pôles touristiques, avec les trois petites villes exceptionnelles, Chamonix-Morzine et Bourg-Saint-Maurice, qui présentent, qui sont des petites villes-stations, et d'autres petites villes, souvent des stations thermales ou des petites villes qui abritent une station de sport d'hiver, qui présentent ici une forme de suréquipement commercial par rapport à leur masse de population. Alors, en dernier, avant de conclure, donc la quatrième partie, dans la dernière partie de ma thèse, je m'étais attaché à analyser le jeu d'acteurs en matière d'aménagement, de développement et d'urbanisme commercial. Alors, sur ce plan-là, donc, l'objectif pour les acteurs locaux, c'est de maîtriser ce processus d'urbanisation de l'appareil commercial des petites villes que j'ai présenté, tout en maintenant l'équilibre entre les différents nodules commerciaux intra-urbains et les zones d'activité périphériques. Pour cela, donc, les stratégies d'aménagement et de développement ont pu prendre deux formes, celles liées à l'urbanisme commercial réglementaire, celles liées à l'urbanisme commercial opérationnel. Donc l'urbanisme commercial réglementaire, c'est tout ce qui concerne les documents d'urbanisme et le fonctionnement des commissions départementales d'aménagement commercial. L'urbanisme opérationnel, ce sont les opérations de relance de l'activité commerciale, en particulier en centre-ville. Donc les réponses apportées par l'urbanisme commercial réglementaire ont, dans l'ensemble, été plutôt décevantes. L'analyse des documents d'urbanisme, alors moi à l'époque c'était encore les anciens schémas de développement commerciaux, mais aussi les SCOT ou encore les PLU, m'a permis donc d'apprécier le caractère souvent très général de leurs prescriptions en matière commerciale et leur relative inefficacité en l'absence d'opposabilité juridique du document. Seul le PLU peut permettre une véritable régulation des implantations commerciales. Mais là encore, faut-il que la concurrence interurbaine entre les villes pour l'accueil des grandes surfaces ne soit pas trop forte pour que les autorités municipales puissent s'emparer du PLU et en faire un véritable outil de stratégie d'urbanisme commercial. De leur côté, les commissions départementales d'aménagement commercial et les anciennes CDEC se sont révélées insuffisantes pour limiter l'expansion des grandes surfaces, dans les petites villes comme ailleurs d'ailleurs, malgré des prises de décision qui pouvaient être très inégales. Par exemple, lorsque j'ai étudié les résultats des CDEC, 80% des opérations, des demandes d'ouverture de grandes surfaces spécialisées, vêtements, etc., bricolage, etc., étaient accordées. Seulement 50% des ouvertures ou d'agrandissement de supermarchés, d'hypermarchés étaient accordées. Mais comme les petites villes étaient déjà très équipées, bon, on va dire qu'elles sont arrivées un peu trop tard sur ce plan-là. Enfin, donc, sur le dernier aspect donc, de l'analyse du jeu d'acteurs, l'analyse du jeu d'acteurs et le fonctionnement des l'analyse de fonctionnement des politiques et des stratégies d'aménagement et de relance commerciale a révélé donc une insertion des petites villes dans les grandes évolutions dans les grandes évolutions nationales, à savoir l'accentuation des formes de coopération entre les acteurs sous l'impulsion de l'État, qui, à travers le FISAC, le fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce, accordait les financements pour développer les stratégies d'aménagement. L'État, par le biais du FISAC, a imposé aux différents acteurs des petites villes, les acteurs publics, les commerçants, de se regrouper et de coordonner leur action pour obtenir les financements nécessaires aux opérations de relance du commerce, en particulier dans les centres-villes. Par contre, sur le contenu des actions proprement dites, bon, elles sont très orientées vers les centres-villes, évidemment. Et elles présentent une certaine, une très forte similarité d'une ville à l'autre, sans forcément d'ailleurs prendre en compte l'évolution de, des caractéristiques de la clientèle locale. De fait, ce qui pose un certain nombre d'interrogations concernant donc les futures actions cœur de ville qui vont être menées à partir de cette année dans les villes petites et moyennes. Alors en conclusion, la petite ville, en dépit de la diversité des cas de figure, s'est bien adaptée aux évolutions du système commercial et reste donc une pièce maîtresse du système urbain français. La question qui se pose à présent, aujourd'hui, est de savoir si elle le restera, avec le passage à une économie et surtout à un commerce de plus en plus centré sur l'outil, sur les outils numériques. Dans tous les cas, la relance de l'activité commerciale dans les petites villes devra, à mon avis, passer par une intégration des politiques de développement commercial dans des politiques de développement et d'urbanisme plus larges, plus vastes, tenant compte à la fois des aspects fonctionnels et morphologiques des petites villes et ne se limitant plus simplement à financer des manifestations commerciales ponctuelles des animations, par le biais d'animations commerciales en centre-ville, aussi utiles soient-elles ces manifestations. Je vous remercie.